voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Joël Gayot rencontre Mona Heftre. Ce soir, entre terre et ciel.
Bonsoir Mona Heftre.
Bonsoir.
Nous voici arrivés au terme de nos entretiens qui nous ont réunis toute la semaine. Au fil de nos soirées, nous avons, je crois, j'espère, je pense, pris la mesure de ce que vous êtes, une artiste qui a fait des choix parfois radicaux, choix de rupture et d'arrachement, choix de se poser dans l'art et pas ailleurs, choix de chanter, on en parlait hier. Ce soir, c'est sans doute plus à la femme que nous parlons aujourd'hui. Vous ne jouez plus vraiment au théâtre, vous ne chantez moins, même si ça vous arrive encore, mais à l'occasion. Par contre, vous embrassez toujours la vie, les bras grands ouverts, et peut-être que pour comprendre cette femme que vous êtes aujourd'hui, Mona Heftre, il nous faut passer par la figure d'une autre femme. C'est un écrivain que vous avez mis en scène, dont vous avez interprété les mots au théâtre. Cet écrivain, c'était Albertine Sarrazin, l'auteur de l'Astragale, de la Cavale et de la Traversière, à qui, au fond, vous avez offert la possibilité de réexister publiquement à travers un spectacle que vous lui avez consacré. Comment êtes-vous arrivé, vous, dont on a bien senti que vous étiez très opiniâtre une fois que vous aviez une idée en tête, comment êtes-vous arrivé jusqu'à cette personne qui était Albertine Sarrazin, Mona Heftre?
J'ai écouté un soir à la radio, parce que j'écoute beaucoup la radio le soir, une lettre qui s'appelle 10 jours. 10 jours, plus faim ni soif depuis 10 jours, avec la seule envie de toi en crever, etc. Une lettre d'amour, où elle dit qu'elle se tape tous les mecs qu'elle rencontre dans la rue parce qu'elle cherche son homme, parce qu'il est en prison, elle ne le sait pas. Une lettre d'amour bouleversante. On se dit, mais qui a écrit un truc pareil? Donc je sors de mon lit. Je vais sur Internet, je me mets sur le site de la radio, je vois Albertine Sarrazin, bon, d'accord. À partir de là, j'ai trouvé quelque chose, j'ai tiré le fil, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis voilà, la bobine s'est vidée. Et donc, pourquoi cette femme m'a touchée, pourquoi j'ai eu envie de la remettre en lumière? Parce qu'en fait, on l'a oubliée, Albertine Sarrazin, elle est morte en 1967.
À l'âge de 29 ans.
À l'âge de 29 ans, d'une erreur médicale.
Oui.
Un destin tragique, elle est passée comme une étoile filante. Quoi. Quand j'ai su son histoire, parce que j'avais lu l'Astragale autrefois, mais je l'avais oublié. Quand j'ai su son histoire, quand je me suis penchée sur sa vie personnelle, il y a eu des concordances, des choses qui m'ont touchée particulièrement en ce qui concerne l'adoption, justement, l'orphelinat. Parce que ma mère, elle-même, avait été abandonnée à l'orphelinat, comme Albertine Sarrazin. Avait été mal adoptée, comme Albertine Sarrazin. Mais sauf qu'Albertine, elle en a fait quelque chose, justement. Il y a une espèce de résilience, comme dit Cyrulnik. Elle est partie de là, avec une volonté incroyable, et elle a voulu devenir quelqu'un. Elle s'est enfuie très jeune de chez elle. Donc elle s'est retrouvée dans Paris, comme moi, mais un peu plus jeune que moi, à rôder. Mais moi, j'étais pas mineure et recherchée, comme elle l'était. Elle, donc elle a fait des conneries. Elle s'est retrouvée très vite à passer sa jeunesse derrière les barreaux. Donc une jeunesse sacrifiée. Et cette jeune femme, très jeune femme, puisqu'elle s'est fait arrêter à 16 ans et demi, eh bien, elle a écrit des choses très poignantes, où elle se raconte. Elle raconte sa quête spirituelle, parce qu'elle avait vraiment des choses à dire. C'est vraiment un écrivain. Sa recherche personnelle, son premier poème qu'elle a écrit sur sa mère inconnue, c'est magnifique. « Ma mère, petite sœur, je pense à votre jeunesse. Sous votre robe, sous votre peau, j'avais chaud et vous me portiez comme un beau fruit de fin d'été. » Parce qu'elle est née en septembre. Des choses bouleversantes. Donc, je me suis dit, c'est trop injuste d'avoir oublié le parcours de cette femme. J'ai rencontré des gens qui l'avaient connue, toujours opiniâtre. J'ai rencontré son éditeur, Jean Castelli, qui est devenu un ami et qui est un monsieur que j'aime beaucoup, qui m'a dit des choses sur elle. J'ai rencontré son ayant droit, qui était une femme incroyable, qui a épousé Julien Sarrazin. C'était une dame qui portait le courrier chez Julien Sarrazin quand il était veuf et qui s'est retrouvée comme ça, héritière de de tout ce patrimoine, de tous ses livres, de tous ses écrits. Et donc elle a eu confiance en moi et elle m'a donné accès à des documents qui m'ont servi à monter un portrait de cette jeune femme qui n'avait pas forcément quelque chose à voir avec l'astragale et surtout pas avec les films qui avaient été faits sur l'astragale où on ne faisait d'Albertine Sarrazin qu'une fille paumée qui faisait le trottoir et qui avait, après un casse raté, avait fini sa vie en prison. Albertine Sarrazin, c'est beaucoup plus profond que ça. Cette espèce de quête, justement la quête d'absolu, elle l'avait. Elle avait vraiment une quête d'absolu, elle était intransigeante et puis une belle écriture. Donc voilà pourquoi j'ai monté cet auteur. Et aussi parce que j'en avais pas fini avec le théâtre. Parce que j'avais envie encore de remonter sur scène. Mais comme avec les chansons, dans la même démarche, ça veut dire avec quelque chose que j'aurais choisi moi. C'est toujours pareil, on en revient toujours au même point. Quelque chose que je maîtriserais parfaitement. Donc j'ai modelé mon texte, voilà, je l'ai adapté. Il se trouve que j'ai fait une première version, parce que c'était quand même très nouveau pour moi. Adapté, c'était extrêmement nouveau. Hein. Je ne savais pas trop comment me placer, la narration, le récit, où j'étais moi, est-ce que j'incarnais, est-ce que je racontais. Donc, cette première adaptation, je l'ai donnée à Paul Vecchiali.
Le cinéaste, donc avec qui vous aviez tourné quelques
voilà,
films.
Je dis à Paul, tu veux bien me mettre en scène, il accepte, parce que je me suis dit, un personnage comme Albertine Sarrazin, ça ne peut que lui plaire. D'abord, il la connaissait. Et puis Paul, il a toujours été attiré par les marginaux, voilà, les gens qui étaient un peu, qui avaient fait des pas de côté, qui ça n'était pas forcément bien tiré, des gens un peu abîmés, tout ça. Donc, il me met en scène, en partant de mon adaptation, de la première, donc, de manière assez, voilà, assez chronologique, on va dire, avec des décors, des costumes, des vidéos où j'étais moi filmée en extérieur pour les extérieurs, donc je ne savais pas où j'étais.
Ça, c'était la première version, ouais. Celle qui a été proposée en 2009.
Oui, je ne savais pas où me
à
situer.
À Paris, dans une petite salle.
Non, c'était avant ça. C'était en 2008
même avant.
À Béziers. Parce qu'il se trouve que Jérôme, à ce moment-là, avait sa compagnie était en résidence à Béziers et il m'avait aidé pour la production, ce qui fait que j'ai pu payer Vecchiali. Enfin, il a pu payer Vecchiali. Parce que Jérôme m'a donné beaucoup de coups de main tout le temps. Quand il le pouvait, il m'a donné toujours des coups de main et je me suis servi de sa structure, je le remercie. Bref, on joue une fois à Béziers, deux fois. Heureusement, je ne joue pas plus. Je me sentais extrêmement mal à l'aise, je ne savais pas comment me situer, justement, dans cette recherche, cette quête que j'ai de savoir où est ma place, de trouver ma vérité. Donc, j'ai rien dit, parce que je sais pas si c'est parce que je suis pas courageuse ou que je déteste les conflits, les affrontements. Je suis un peu spécialiste de fil à l'anglaise, moi, c'est un peu mon truc, hein, quand je sens que ça me dépasse. Et puis, je pensais que Paul pouvait pas comprendre. Il aurait essayé de me convaincre que j'avais tort, que c'était très bien. Donc, il s'est fâché à mort avec moi. Je lui ai écrit pour lui expliquer. Je lui ai téléphoné. Il a rien voulu savoir. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera. Et à partir de là, j'ai fait une autre adaptation. Voilà. Et donc là, je suis partie vraiment au fond de son journal de prison, au fond de ses carnets, au fond de ses poèmes de jeunesse. Et j'en ai fait une espèce de... Comment dire, de monstre plein de vie. Et en ça, évidemment, il y avait de moi. Le monstre plein de vie, c'est un peu moi quand je suis arrivée à Paris. Donc j'ai viré les décors, les costumes, donc rien. La boîte noire.
Vous avez trouvé une nouvelle metteur en scène.
J'ai demandé à ma fille,
et
Manon.
Et c'est donc votre fille, Manon.
Manon, ça varie, donc, d'être là, de me regarder. Il se trouve que Manon, quand j'étais en train de faire ce travail, elle vivait encore avec moi, donc voilà, je lui lisais des choses. Elle me disait, ah, Albertine Sarrazin, je ne connais pas, c'est super, et tout ça. Bon, bref, elle était déjà au parfum, Manon. J'ai demandé à Manon de me mettre en scène, et puis je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu trouves des vidéos. Donc, je lui ai dit, fais un petit film. Toi. Avec des images noires et blancs, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et des archives d'Albertine Sarrazin que j'avais trouvées, parce que je suis une fouineuse, dans Alina. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Dim Dam Dom en 66. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui.
Là, il y avait vraiment...
C'est une mine d'or pour trouver
une
des
mine
archives.
D'or, voilà. Donc, il y avait un portrait, enfin, des photos d'elle qui étaient un peu animées, des choses très étranges. Des photos solarisées, on la voit, on pensait que c'était une photo, puis en fait, non, vous voyez qu'elle bougeait ses cils. Donc, des choses d'une beauté incroyable. Donc, Manon a fait un montage avec ses images d'archives et puis ses petits, voilà, ce qu'elle avait rajouté, des choses sur l'internement, l'enfermement, plus une musique de Camille Rocailleux, qui est un jeune compositeur, qui était un de ses amis, qu'elle m'a présenté. Donc, voilà, d'un seul coup, Albertine était vivante et moi, je n'étais qu'un médium, en fait.
Et vous étiez à votre place.
Et j'étais à ma place.
Ce spectacle
en tant que médium, parce que moi j'avais l'âge d'être sa mère, vous comprenez ? Ça m'était extrêmement mal à l'aise de me prendre pour Albertine Sarrazin. Je trouvais que c'était de l'imposture, je me sentais extrêmement mal à l'aise. Ça, malheureusement, Paul ne l'a pas compris.
Mais est-ce qu'il y avait dans le désir de déployer la figure d'Albertine Sarrazin, par rapport à elle, une envie de réparation, de réparer quelque chose pour elle? C'est-à-dire que elle, effectivement,
elle, oui, bien sûr.
Elle a eu cette vie-là,
oui,
elle sort de prison, elle est rattrapée par la maladie et elle meurt bêtement d'une erreur médicale. Est-ce que vous aviez envie de réparer quelque chose pour elle?
De réparer, je ne sais pas si c'est le mot juste, disons de la sortir un peu des oubliettes, quoi. Voilà. Qu'on connaisse un peu d'abord ses écrits, parce qu'elle écrit vraiment très 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 bien. Qu'on oublie le côté scandaleux qui a défrayé la chronique, parce qu'en fait les gens ils ne se souvenaient que de ça. Moi je me souviens quand j'étais petite justement et qu'on en avait parlé à la télé, parce que c'était un scandale, cette jeune femme qui sortait de prison, qui avait fait un carton avec ses bouquins, et puis paf, qui mourait 6 mois après. Et puis son mari, Julien Sarrazin, qui attaquait la médecine de Montpellier, à l'époque, fallait le faire quand même, hein, parce que lui aussi c'était un truand, il avait fait 18 ans de prison. Donc ça avait vraiment défrayé la chronique, il y avait Frédéric Potcher, je me rappelle, à la télé, qui parlait de ça. Oh, c'était un procès, mais alors ça avait un retentissement incroyable. Donc elle était très célèbre. Non, c'est juste, voilà, je pensais qu'il fallait la remettre en lumière. Et puis je vous dis encore une fois, moi j'en avais pas fini comme avec le théâtre, comme je vous dis, j'avais envie de me coltiner, voilà, un seul en scène pendant 1h30, sans décor, sans rien. C'était un peu une mise à l'épreuve parce que je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais fait, et puis on m'avait jamais appris comment il fallait le faire. Donc voilà, j'étais chercher en moi quelque chose qui pouvait m'y amener. Après, comment les gens l'ont reçu, je pense ils ont trouvé ça très violent, ça je sais. Quand je l'ai fait au déchargeur, ça avait pas mal marché. Et après, quand je l'ai repris au théâtre de Poche-Montparnasse, il n'y avait pas le public. C'est certain. Philippe Tesson, qui m'a accueilli gentiment, m'a dit, tu vois, ton spectacle est beau, mais le public du Poche, c'est pas, ils n'ont pas envie de ça. Je l'ai constaté. Mais bon, voilà, c'est un travail que j'ai fait par rapport à mon métier d'actrice. Et je suis allée aussi loin que j'ai pu avec ce texte.
Mais est-ce que d'une certaine manière, vous avez réussi justement à conjurer ce sentiment d'illégitimité que vous aviez par rapport au fait d'être actrice, de ne pas l'être?
Non.
Non?
Enfin, non, non.
Et pourquoi vous dites de vous que vous n'étiez pas actrice?
Non, non, j'ai mal répondu là. J'ai toute légitimité, c'est
oui.
Pas vrai. Je considère que je suis tout à fait légitime comme actrice. La preuve, c'est que je touche une retraite d'actrice, d'audience. Alors c'est bien la preuve que j'étais professionnelle puisque j'ai suffisamment travaillé dans ma vie. Non, bref, légitimité, où j'ai plus la... Oui, quand j'étais plus jeune, oui, j'en ai... Bah, c'est normal, quand on apprend tout seul et qu'on est voilà autodidacte, on n'a pas de diplôme. Hein. Donc le diplôme des autodidactes, c'est se faire... on cherche la légitimité, on cherche à se faire reconnaître pour son travail. Donc dans cette quête-là, oui, bien sûr, j'étais en quête de légitimité, mais maintenant, non, ça va. Hein.
Vous m'avez dit, lorsque nous avons travaillé ensemble pour la préparation de cette émission, vous auriez beaucoup aimé jouer Tchekhov. Ah. Et c'est vrai qu'on vous voit très bien apparaître dans La Cerisée, dans Les Trois Sœurs, ou dans... Platonov, Ivanov, enfin ouais. C'est vrai qu'on a le sentiment que l'univers de Tchekhov...
Parce que c'est des beaux personnages de femmes, quoi. Les personnages de Tchekhov sont bouleversants. Et puis, c'est... Oui, j'aurais beaucoup aimé jouer La Mouette quand j'avais 20 ans, mais il se trouve que ça s'est pas fait parce que je savais même pas que le conservatoire dramatique, ça existait, que j'étais jamais rentrée dans un théâtre et que je ne connaissais que... Bah, je n'ai connu que les musicals, en fait. Et quand j'ai abordé un texte avec Dorimène, le bourgeois dont je vous parlais hier, j'étais extrêmement désemparée, je ne savais pas comment faire. Là, je pensais que je n'avais, à la suite de cette expérience, que je n'avais aucune légitimité d'actrice. C'est pour ça que je suis allée vers la chanson aussi.
Et lorsque vous allez au théâtre, vous nous parliez de Jean-Quentin Chatelain, qui est un acteur que vous aimez beaucoup voir en scène, on en a parlé hier, mais quand vous allez au théâtre, Mona Heftre, et que vous voyez des comédiennes, je ne sais pas si vous allez à la Comédie Française par exemple ou ailleurs, qu'est-ce qui fait que votre regard ou votre oreille s'arrête sur ces comédiens et ces comédiennes?
D'abord, je trouve que les comédiens de la Comédie Française, ils sont formidables, vraiment, surtout les jeunes, mais pas que les jeunes d'ailleurs. Viermoz n'est pas tout jeune, il est formidable aussi. Je trouve que les acteurs qui servent comme ça magnifiquement un texte, et puis en plus ce ne sont que des beaux textes qui sont montés aux Français, pour moi c'est le théâtre dans toute sa grandeur. C'est le théâtre comme... peut-être que dans ce théâtre-là j'aurais pu trouver ma place si, encore une fois je vous dis, j'avais habité Paris et si mes parents m'avaient amené à la Comédie Française pour voir des spectacles quand j'étais enfant. Peut-être que ça se serait fait, peut-être. Mais alors vous savez, peut-être que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aussi. Donc, on a de regrets que pour les choses qu'on n'a pas faites, comme dit Albertine Sarrazin.
Il n'y a pas de place dans votre vie pour justement ça, pour le regret, pour le remords, pour ces sentiments un peu négatifs qui font que quand on commence à faire un bilan, on est en proie à...
Non. Le regret, non. Le doute, la tristesse, bien sûr, sont des sentiments, des choses qui me tombent dessus parfois, hein, comme tout le monde, hein, comme tous les humains. Mais non, je crois que l'enthousiasme, c'est mon moteur. Hein. La volonté aussi, c'est un moteur pour moi, ça l'a toujours été.
Vous êtes une conquérante.
En quelque sorte.
Oui.
En quelque sorte, oui.
Est-ce qu'il y a un paradoxe, Mona Heftre, qui serait cette Mona qu'on peut sentir dans la retenue, dans une forme de retenue et de gravité, et puis la Mona qui a été très extravertie sur la scène du théâtre et qui n'a pas eu peur de se dévoiler, de se montrer et d'apparaître devant le plus grand nombre, devant le public, je veux dire.
Non.
Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est deux faces complémentaires d'une même femme ?
C'est deux faces. Il n'y en a pas que deux, il y en a plein d'autres. Je pense que si je dégage de la gravité, et on me l'a déjà dit, hein, vous n'êtes pas la première, c'est par mes choix, sans doute, par mes choix artistiques, par mes goûts, par mes lectures. Ouais. Mais en même temps, je trouve que la légèreté, c'est formidable. Moi, je recherche la légèreté, dans la vie en tout cas. L'humour, la distance, c'est ce que j'appelle le charme. C'est ce qui me plaît dans les gens que j'aime fréquenter. Et quand il y a un fond noir et grave derrière, je trouve que c'est encore plus beau. Donc la légèreté, c'est formidable. C'est, faut pas, comme dit ma mère, il vaut mieux en rire.
En rire qu'en pleurer.
Oui.
Mais la gravité, quand je dis gravité, je pense aussi à une forme de gravité physique, c'est-à-dire qu'on sent quelqu'un de parfaitement centré et d'assez terrien. Alors même si vous vivez au sixième étage, la tête un peu dans les nuages, ici à Paris, dans cet appartement où nous nous trouvons, il y a quelque chose de très planté. Et je me demande si ça vient de votre père qui était jardinier, de ce contact très très étroit que vous avez eu avec la nature. Et puis ce côté un peu sauvageonne que vous aviez quand vous étiez petite.
Complètement, c'est sûr. C'est sûr. On peut dire que voilà, quand j'ai poussé dans un endroit, dans une province où il ne se passait rien, avec des parents que j'aimais, mais bon, qui étaient quand même pas très cultivés. Quoique le jardinage, c'est aussi de la culture. Et que je suis allée chercher de la lumière comme une plante pour grandir. Et ma lumière à moi, c'était ce que j'écoutais, la musique, les livres, c'est tout ça. C'est ce qui fait que, au fond, je devais savoir, sentir en tout cas, que j'avais quelque chose de singulier à exprimer, mais comment ? Je ne savais pas ce que c'était être un artiste. Il a fallu que j'arrive à Paris, que voilà, je fonce comme ça, tête baissée, en essayant d'attraper au vol tout ce qui pouvait me servir, pour finalement nommer ce désir, cet élan, et me dire, au fond, ce que je veux, c'est être un artiste, une artiste. Et donc, je pense que d'avoir été élevée, effectivement... sans capital culturel, comme dit qui vous savez, Bourdieu, c'est pas forcément un handicap pour moi. C'est sûr que l'école m'a renvoyé. L'école renvoie les inégalités. L'école renvoie à la classe sociale. Et moi, j'en ai souffert quand j'étais à la petite école parce que les enfants, ils sont durs. On n'est pas habillés comme eux. On n'a pas le stylo à encre. Voilà, on n'a pas tout ça. Donc l'école ne m'a rien appris finalement. Rien. La télé m'a appris davantage que l'école, finalement.
C'est ce que vous nous disiez lundi soir.
Hein. La télé de l'époque, hein, je veux dire. Donc, je me suis construite toute seule. Et ça m'a donné une singularité. Ça, j'en suis bien consciente. Et cette singularité, maintenant, je la revendique dans mes choix. Et je pense que je suis effectivement assez radicale.
Mm-hmm. Lorsqu'on parle de théâtre avec vous, je vous confirme, vous êtes radical. Votre regard est très aigu et assez peu dans le compromis.
Et en même temps, je pense que dans la vie, je suis quelqu'un de facile. Hein. Je trouve que la gentillesse chez les gens, c'est une qualité formidable. Moi, c'est ce que je cherche en premier. Après, c'est vrai que le manque de culture a pu être un handicap au départ, mais parce qu'effectivement, je ne connaissais pas le théâtre, je ne connaissais rien. Mes parents n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre. On n'allait pas au cinéma non plus. Donc j'étais fermée dans cette espèce d'obscurantisme un peu. Hein. Bon, je suis un peu, j'exagère à peine. Hein. Et donc ce que je suis allée chercher toute seule, ça m'a donné une force et des anticorps formidables. Et d'avoir été élevée dans un jardin, on apprend en regardant. On apprend les saisons, on apprend le travail de la terre, on a le goût du travail bien fait. Mon père était un jardinier extraordinaire. Mon père avait, il savait tout faire. Tout. Il savait, il connaissait tout. La lune, l'orientation. Une plante est là, elle n'est pas bien. Tiens, qu'on la met là, tu vas voir, parce que là, elle va mieux pousser. Et puis d'un seul coup, ça marche. Donc on apprend beaucoup dans un jardin. Les fleurs qu'il laisse pousser au bout du rang comme ça, qui sont des fleurs presque monstrueuses, parce qu'il laisse ses légumes monter en graines. Et puis après, voilà, on prend les petites graines. Moi, je les mettais dans une petite boîte et j'écrivais le nom dessus, parce que mon père, dès qu'il prenait un stylo, il cassait tout. Parce que le stylo, c'était pas un outil pour lui. Ses outils, c'était ses outils de jardinier. Et puis ces petites graines, voilà, une petite graine va donner une plante qui va donner plein de graines, donc à l'infini comme ça. Donc on a, voilà, on touche quelque part à une finitude, c'est vrai. Et je pense que ça a résonné en moi, étant enfant. Et quand j'allais à la pêche avec lui aussi, c'est vrai que j'étais une sauvageonne, mais mon père, il avait un carrelet au bord de la Dordogne. Vous savez ce que c'est qu'un carrelet ? Il y en a encore quelques-uns au bord de la Dordogne. Un carrelet, c'est un immense filet, une grande nasse, très très large, qui fait peut-être 10 mètres de diamètre. Et qu'on balance dans la flotte, dans la rivière avec un mât. Et quand on relève ce filet, c'est la pêche miraculeuse. Et donc, il faut regarder le courant, parce que comme moi, j'étais pas très loin de l'estuaire de la Gironde, il y avait ce qu'on appelle le mascaret. La marée avait une influence sur le cours de la rivière. Donc, on voyait une petite vague à la marée montante qui remontait le cours de la Dordogne. Et à ce moment-là, il fallait sortir le filet. Donc, beaucoup d'observations. On apprend beaucoup, comme ça, en étant enfant. Et puis après, il fallait tous ces poissons qui n'étaient pas blessés. Parce que les poissons, quand ils sortent de ce filet, ils n'ont pas d'hameçon, ils n'ont rien. Et on peut tomber des fois sur des bancs entiers de poissons. Donc je pense que j'ai énormément appris aussi. Voilà. Je pense que j'ai pris partout, un peu partout, ce qu'il y avait à prendre. Parce que...
Bon, mais vous sauriez dire, Mona Heftre, ce que c'est qu'être artiste?
Être artiste, c'est...
Ce que vous vouliez devenir, ce que vous êtes devenu.
C'est avoir une perception, un regard singulier sur le monde, sur ce qui vous entoure. Et puis en faire quelque chose, produire quelque chose avec ce regard-là. Moi, je pense que cette singularité, elle vient évidemment de mon enfance, ça c'est certain, donc je me répète. Et que quand j'ai foncé dans ce métier d'artiste, sans trop savoir où j'allais, comme un électron libre, et j'avais ce noyau au cœur de l'électron. Et ce noyau, il me vient de là. Il me vient de ma petite enfance, sur les chemins de l'école. Et j'en ai fait quelque chose. J'en ai fait quelque chose parce que j'ai fait de la céramique aussi. On n'en a pas parlé, mais ça a été... Vous me dites que je suis centrée, que je suis posée. Mais je pense que la céramique m'a énormément aidée. Parce que j'ai fait une formation professionnelle de tourneur en céramique. Et donc, je me suis coltinée à la matière. J'ai transformé la matière. Il y a quelque chose de l'alchimie quand on met la terre, un pain de terre comme ça dans du feu. Le grès, c'est 1300 degrés, la porcelaine, 1280. C'est des températures quand même extrêmes. Et on transforme la matière. On arrive à avoir le cœur de la pierre, l'os. Donc ça, les séances de tournage sur un tour, avec ce pain d'argile, cette masse informe qu'il faut dompter, domestiquer, centrer, jusqu'à sentir justement... comment ça s'organise en cercle concentrique, comment on arrive à faire monter ça entre les doigts sans mettre trop d'eau. Donc on a la terre, on a l'eau et le feu. Ça, pour moi aussi, c'est une réalisation artistique. Mmh. Et ce goût de la terre me vient aussi probablement de mon enfance, c'est sûr.
D'ailleurs, là, on est, je le disais, dans votre appartement et il y a des animaux un peu partout. Un rat, derrière moi, il y a un chimpanzé, un singe assis. Pas très loin derrière vous, il y a un grand lièvre. Dans l'entrée de votre appartement, il y a un hippopotame. Et c'est vous qui les avez fabriqués, qui leur avez donné naissance. Tout un bestiaire comme ça.
Ouais. Je fais des animaux. Oui,
mais vous avez un rapport très sensuel, au fond, à l'existence. Là, vous parlez de la matière, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité absolue dans votre relation à l'existence et à la manière dont l'existence doit prendre forme.
Je pense,
oui. Naître.
Je pense, oui. Mm. C'est pour ça que j'ai été folle de tango à une époque, parce que la sensualité qu'il y a dans la musique et dans la danse du tango, c'est ça aussi, ça m'a transportée. Là, j'en ai fait à outrance, jusqu'à ce que, comme la petite sirène, je puisse plus marcher, parce que je suis quand même souvent quand même dans l'excès. Je suis allée en Argentine, parce que justement, je voulais pas... continuer à apprendre dans les cours, parce que dans les cours, même dans les milongas à Paris, les gens sont dans la démonstration, ils ne savent pas ce que c'est que le tango. Et pour trouver l'essence du tango, comme pareil pour la céramique, trouver l'os, retrouver la pierre. Je suis allée à Buenos Aires et j'ai rencontré un vieil homme qui m'attendait tous les soirs dans une milonga pour me faire danser. Ce vieux monsieur, quand il passait sa main, comme ça, derrière mon dos, et puis avec l'autre main, il me prenait la main comme ça, il ne bougeait pratiquement pas. Mais il écoutait la musique. Et puis là, dans le tango, c'est sentimental. Ça vous emporte. Puis il y a des ruptures, il y a des grands orchestres de tango magnifiques. Donc, et puis, voilà, j'étais dans son écoute, dans son histoire à lui, son histoire, la manière dont, voilà, je pense qu'il avait dû vivre toute sa vie, il avait dansé, peut-être qu'il était veuf, on n'en a jamais parlé. En tout cas, tous les soirs, il m'attendait. Donc c'est vrai que c'est un rapport extrêmement sensuel avec la musique, avec la danse, avec la céramique, avec la chanson. Donc, que dire de plus ?
Peut-être parler quand même, Mona Heftre, parce que vous y avez fait allusion à plusieurs reprises, mais on n'en a pas vraiment parlé, et c'est peut-être le moment de l'héritage. Alors, pas celui qui est le vôtre, ça vous nous en avez parlé, mais de l'héritage que vous laissez à vos deux filles. Je parle évidemment pas du bien matériel, je parle de ce que vous leur bien avez sûr. Transmis, de ce que vous aimeriez qu'elles aient compris de l'existence et voilà, de la passation de vous à elles.
Ça, vous savez, hein, les enfants, ils grandissent comme ils peuvent dans un milieu. Mes filles, elles connaissent parfaitement le milieu du spectacle. Elles sont venues, Nina surtout. Nina, elle a été trimballée partout, sur les routes, elle dormait dans les loges, ou sur mes genoux au restaurant après le spectacle, où je la lavais dans les éviers et lavabos des loges. Bon, c'est une enfant de la balle, Nina. Donc effectivement, il y a de la transmission, puisque maintenant elle fait ça, Nina. Elle fait de la musique, elle chante, elle a regardé, elle a beaucoup regardé, ça lui a plu. Elle s'est dit, moi c'est une vie qui me va, mais apparemment elle la continue. Et elle a beaucoup de talent, et elle chante très 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 bien, bien mieux que moi. Parce qu'elle a fait des cours de chant classique, justement. Parce que moi, je l'ai inscrite au conservatoire. Justement, moi, je n'avais pas pris cours de chant. Et donc, je l'ai inscrite au cours de chant. Elle a une très belle voix, Nina. Elle va chanter bientôt dans la vie parisienne. Et puis, elle fait aussi des albums. Et puis, son ami est musicien. Ils travaillent tous les deux à la bergerie. Ils ont installé un petit studio là-bas. Ils ont plein de copains qui viennent de Toulouse faire la musique avec eux. Quant à Manon, la transmission père-fille s'est faite, mais alors, directement. C'est pas passé par le cordon ombilical, c'est... Elle a beaucoup suivi son père, elle a été assistante de son père. Il a commencé, dès qu'elle a commencé à avoir des études de théâtre, il lui a demandé, parce qu'il adorait ses enfants, et il adorait être entouré de sa famille, toujours Jérôme, tout le temps, tout le temps. Et donc il a amené sa fille un peu partout avec lui, elle a appris le métier en regardant son père. Et maintenant elle fait une carrière formidable. Et elle me dit, j'aime ma vie maman, mais merci, elle me dit toujours merci à toi et à papa, mais vraiment, c'est formidable ce que vous m'avez appris. Manon, elle est très expansive, elle dit ça. Et puis Manon, c'est une nature, c'est une fille qui a de l'abattage et elle est magnifique.
Pourquoi est-ce que Mona Heftre, il faut prononcer ce F et ce T dans votre nom ?
C'est pas facile à dire mon nom. Alors ce nom vient de Lorraine, mon père venait de Lorraine. Sa grand-mère était alsacienne et en 1870, ils ont demandé aux Alsaciens ce qu'ils voulaient franciser leur nom, d'inverser les deux dernières lettres, ce qu'ils ont fait. Donc de Heftre, c'est devenu Heftre.
Merci de nous avoir laissé entrer dans votre histoire à vous, Mona Heftre.
Merci.
Fin de cette rencontre de Joël Gaillot avec Mona Heftre. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Alexandra Bergel, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.